Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. C'est une étape importante qui débute aujourd'hui en Colombie. Après la signature de l'accord de paix en mai dernier, après 50 ans de conflit, 260 000 morts, 7 millions de déplacés, la guérilla des FARC, la plus importante, entame son désarmement. Trois étapes, inventaire, destruction, stockage. Le processus sera supervisé jusqu'à son terme, prévu le 29 mai par les Nations Unies. Les FARC, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, issues en 1964 d'une insurrection paysanne, comptent encore officiellement près de 7000 combattants. Du coup, derrière le désarmement, il y a une question sans doute aussi complexe, celle de la réinsertion de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, et donc celle de la pérennité d'une paix qui a été si difficile à décrocher. Les anciens rebelles peuvent-ils revenir à la vie civile? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés en studio. Anne Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des programmes Amérique à l'ACAT France, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et vous êtes aussi membre du réseau France-Colombie Solidarité. Avec nous, en direct de Bogota, par téléphone, Frédéric Massé, bonsoir. Bonjour chez vous, hein. Il est tôt, juste après le déjeuner.
Il n'est pas très tôt, bonjour, bonsoir, oui.
Vous êtes directeur du Centre de Recherche et Projets Spéciaux de l'Université Externado de Colombie. Alors peut-être une première réaction avec vous, Frédéric Massé, depuis la Colombie où vous vous trouvez donc. Comment elle se passe cette journée? Est-ce qu'elle était très attendue? Est-ce qu'on a vraiment la sensation qu'une page se tourne?
Alors, elle était attendue, mais on n'a pas vraiment l'impression d'un événement très très marquant aujourd'hui. C'est un peu une journée comme les autres, pour plusieurs raisons. Donc le désarmement qui commence officiellement aujourd'hui, il y a eu quelques couacs ces derniers mois, parce qu'en fait, les zones donc de où sont concentrés les membres des FARC qui vont se démobiliser ne sont pas toutes prêtes. Donc il y a eu quelques petits différends entre le gouvernement, les FARC et les Nations Unies au sujet de la date de ce désarmement. Donc finalement, le désarmement commence aujourd'hui, mais on sait qu'il va prendre... il ne va pas y avoir 30% des armes rendues...
C'était l'objectif dès aujourd'hui, avec cet autre objectif, celui de la fin, le 29 mai. Alors vous nous dites une journée importante, mais qui n'a pas forcément l'air si importante vue de Bogota. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Boucher? Est-ce que c'est une étape fondamentale pour la paix aujourd'hui en Colombie?
C'est une étape importante... pas nécessairement plus fondamentale que celles qui ont précédé, qui étaient déjà d'obtenir un accord définitif, et puis toutes celles qui devront suivre. Donc effectivement, le désarmement, c'est très important, ça participe de cette démobilisation des FARC, mais il y a tous les autres volets prévus à l'accord et qui vont bien au-delà de cette démobilisation, à savoir un développement rural, la justice pour les victimes, la lutte contre le narcotrafic. Il y a tout un tas d'autres volets.
En fait, tous ces points-là sont vraiment imbriqués pour qu'une paix puisse réellement s'instaurer. Ce sont énormément de réformes qu'il faut mener en même temps. Alors, commençons quand même par ce qui est censé être le centre de notre émission. Qu'est-ce qui a été conclu? Qu'est-ce qui a été mis en place ou en tout cas prévu pour réinsérer les guérilleros? Je disais tout à l'heure, ils sont 7000 officiellement.
Alors, ce qui était prévu dans le pré-accord au départ, c'était effectivement, outre le dépôt des armes et la démobilisation, le fait qu'il puisse y avoir un accès à de la formation, à un programme d'éducation, pour que progressivement les FARC puissent déterminer quelles activités ils pourraient occuper dans le cadre...
Se projeter dans une nouvelle vie, finalement. Exactement. Et est-ce que là, les promesses ont été un petit peu tenues? Est-ce qu'on a effectivement mis en place des structures pour former ces personnes, pour les protéger, pour qu'elles se construisent un projet économique, un projet de vie?
Alors là, peut-être que Frédéric Massé en Colombie aura plus d'éléments. C'est vrai que dernièrement, on n'a pas vu passer beaucoup d'informations sur le fonctionnement très concret au sein de ces zones de transit en vue de la démobilisation. Et puis effectivement, c'est ce qu'en disait Monsieur Massé tout à l'heure, il y a quand même quelques couacs, beaucoup de retards accumulés, des difficultés à savoir quelles vont être véritablement les ressources financières à disposition, comment tout cela va fonctionner. On sait qu'il y a tout un dispositif plutôt autour de la sécurisation de ces zones, avec un périmètre.
Donc il y a des objectifs qui ont été fixés, mais pour vous, les moyens sont peut-être pas encore très clairs. Alors on va justement demander peut-être à Frédéric Massé qui a plus d'informations là-dessus. Alors vous parliez de ces zones, il y a un transit des guérilleros qui est prévu dans des lieux spécifiques, donc 23 zones villageoises de normalisation, 8 camps dans les territoires plus isolés. Alors est-ce que aujourd'hui ces zones sont prêtes et qu'est-ce qu'il est censé s'y passer? Est-ce que le dispositif est adapté selon vous?
Alors, comme dans tous les processus de paix, il y a des problèmes inhérents à cette démobilisation, ce désarmement et cette réintégration. DDR, ce sont les sigles connues, disons, dans les milieux onusiens et les processus de paix. Ces difficultés sont donc inhérentes, mais il y a eu des difficultés supplémentaires en Colombie, dues en partie au premier accord de paix qui avait été signé et qui avait été rejeté par une très courte majorité de Colombiens. Donc quand le 26 septembre, les accords de paix ont été rejetés, il y a eu, ou le 2 octobre, je ne me rappelle plus exactement de la date, il y a eu effectivement un coup de frein mis au processus de paix. Et donc les accords de paix, la deuxième mouture des accords de paix, ont été ensuite signés fin novembre, et on a repris tout ce qui était... qui avait été un petit peu mis entre parenthèses pendant 2 mois. Donc ça explique en partie les retards de mise en place, de construction de ces zones. Parce qu'en fait, ces zones, alors on avait dit 23, elles ont été ramenées à 19 zones, plus effectivement 8 zones transitoires. Dans ces zones, les guerrieros vont se concentrer. Ils vont donc procéder à un inventaire et ensuite à rendre leurs armes. Au bout de 180 jours, donc la date initiale était au début décembre, au bout de 180 jours, tes guerrieros vont ensuite sortir de ces zones ou rester dans ces zones, et c'est là où il y a une certaine ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en œuvre de ces zones sont des problèmes essentiellement logistiques. Ce sont des zones qui ont été prévues dans des endroits relativement isolés, sans accès à l'eau potable, sans aucune construction, sans aucune construction prévue pour dormir, pour manger, pour se laver, etc. Donc ça prend un peu de temps. Il y a des problèmes financiers derrière, des problèmes logistiques, mais ça va être réglé dans les semaines qui viennent.
Mais donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a juste un retard sur les objectifs qui avaient été fixés en matière de calendrier, ou bien que c'est un peu plus profond et qu'en fait, il n'y a pas de réelle volonté politique derrière?
Non, je crois qu'il y a une volonté politique, il y a un retard sur le calendrier. Les retards sur le calendrier, c'est très fréquent dans tous les processus de paix. Simplement, là, il y a eu un découac de ces derniers jours, c'est que le désarmement, donc aujourd'hui, devait être rendu 30% des armes, il n'y aura pas 30% des armes, mais on maintient la date du désarmement total des FARC pour fin mai début juin. Voilà. Et ça n'a pas évolué. Alors, sur ce désarmement, il faut être relativement prudent, parce que...
Alors attendez, juste, je voulais demander à Anne Boucher, qui fait oui de la tête, si elle partage avec vous ce constat que vous dressez, donc des problèmes finalement de calendrier, ou en tout cas de début de calendrier, on garde le même objectif, mais pas de problème en termes de volonté politique, c'est ce que nous disait Frédéric Massé. Oui. Vous avez la même analyse, vous?
Oui, tout à fait. À ce niveau-là, on a l'impression effectivement que la volonté politique reste intacte, il s'agit de désarmer, mais effectivement, techniquement, sur le plan logistique, il y a encore des difficultés.
Et alors, en matière de volonté politique, il y a évidemment la question de la volonté politique du côté du gouvernement. Comment ça se passe du côté des FARC, peut-être, Frédéric Massé? Est-ce que là aussi, on sait ce qu'on veut faire exactement? Est-ce qu'il y a consensus?
Alors, il y a consensus, mais les FARC sont relativement prudentes et ça peut se comprendre. C'est-à-dire que les FARC disent, nous, on a accompli tout ce qu'on avait à faire. Le gouvernement ne maintient pas ses engagements, ou en tout cas est en retard sur la mise en œuvre de ses engagements. Donc les FARC en fait renvoient la balle dans le camp du gouvernement, et les FARC sont relativement prudentes dans la mesure où le désarmement est également conditionné à l'amnistie pour les guerrieros de base et un certain nombre d'autres mesures, notamment de réinsertion, le paiement de salaire. Donc en fait, les FARC disent comment voulez-vous que nous on rende les armes aujourd'hui si on est dans des camps où on n'a même pas accès à l'eau potable.
Alors je crois qu'Anne Boucher a quelque chose à ajouter en ce sens-là. Anne Boucher, allez-y.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut aussi dire que là, il y a une préoccupation des FARC qui commence à émerger aussi quant aux conditions de sécurité et de protection. Effectivement, on constate depuis la ratification là, de l'accord de paix le 1er décembre qu'il y a vraiment une recrudescence des violences de la part de l'autre guérilla, mais surtout de la part des paramilitaires ou néo-paramilitaires.
Donc l'autre guérilla, l'ELN, dont j'aimerais dire un mot si on a le temps en fin d'émission.
Donc ça aussi, c'est un des points prévus à l'accord et qui n'est pas négligeable, puisque ça induira la possibilité aussi de la participation politique des FARC et plus largement d'autres mouvements de la société civile. Donc voilà, il y a aussi cette inquiétude-là aujourd'hui de la part des FARC de dire on ne voit pas encore trop quelles sont les mesures concrètes pour la sécurité.
Alors la réinsertion aussi de ces anciens combattants dans la vie civile classique, elle dépend aussi du reste de la population civile. Alors il faut rappeler quand même que l'écrasante majorité des victimes du conflit armé ont été des civils, victimes de massacres, de disparitions forcées, de tortures, de violences sexuelles, de déplacements forcés, de recrutement d'enfants, de prise d'otages. On sait, on en a beaucoup parlé en France. Quel est aujourd'hui, Anne Boucher, le sentiment de la population colombienne à leur égard? Est-ce que ces fameux problèmes de justice transitionnelle sont finalement fondamentaux pour la réinsertion future des combattants?
Certainement, au-delà de la réinsertion des combattants, c'est un point majeur pour la pérennité de ces accords et la réalisation d'une paix juste et durable. C'est certainement un critère très important, évidemment, pour les victimes et pour l'acceptation par l'ensemble de la population.
Et alors là-dessus, il y a des engagements qui ont été pris. Qu'est-ce qui est prévu en matière de justice,
alors,
de reconnaissance des souffrances des victimes?
Alors, il y a plusieurs volets. Déjà, on est plutôt sur un système de justice transitionnelle. L'idée principale est que, en échange de la vérité, de la reconnaissance des crimes, il y ait des peines réduites pour les guérilleros et les autres acteurs qui pourraient être jugés. Et que par ailleurs, ces auteurs de crimes participent à la réparation des victimes, à la réconciliation. Donc ça passe par la participation aux activités de déminage, la participation aux projets de développement rural et à la reconstitution du tissu social. Ensuite, il y a plusieurs volets. Il y a déjà une commission d'éclaircissement historique de la vérité qui sera là pour établir en fait les faits, les responsabilités, et comme une condition à la non-répétition. Et puis, il y a un système de justice spéciale qui était prévu, avec une commission des recours en grâce et d'amnistie pour les délits mineurs, ou en tout cas de nature vraiment politique, et un tribunal spécifique de paix pour les crimes de guerre.
Donc,
et crimes contre l'humanité.
Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été prévues. Frédéric Massé, est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Boucher? Est-ce que la justice traditionnelle telle qu'elle nous l'a décrite et telle qu'elle est, alors je ne sais pas si on peut dire rêvée, mais en tout cas projetée, va être déterminante dans le succès du processus de paix qui est en cours?
Alors, dans le succès du processus de paix, je pense que oui, même si c'est toujours difficile de mesurer le succès d'un processus de paix, tout dépend de quel point on se place. C'est-à-dire que je pense que si, même si aujourd'hui la justice traditionnelle n'accomplit pas tout ce pourquoi elle a été prévue, je ne pense pas que ça remette en cause l'ensemble du processus de paix. Deuxième point, la justice traditionnelle vis-à-vis de la réintégration des combattants des FARC a finalement peu d'incidence. Une loi a été prévue pour que les combattants qui ont commis des crimes puissent bénéficier d'une certaine amnistie. Donc là-dessus, ça ne posera pas énormément de problèmes. Le problème étant davantage vis-à-vis des commandants des FARC qui devront donc qui pourront être convoqués par le tribunal de paix et qui seront également sans doute convoqués
mais
par la commission.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forte demande de la part des victimes des FARC hein, depuis ces 50 dernières années qui espéraient que cet accord ne va pas reproduire les carences de la précédente loi justice et paix en 2005 sur la démobilisation des paramilitaires? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une forte volonté sociale de justice?
Oui, il y a une volonté de justice, mais finalement, on se rend compte que les victimes des FARC sont celles qui sont les plus enclins à pardonner aux FARC elles-mêmes. On l'a vu dans les lors du référendum passé, où les régions, où les municipalités, finalement, qui avaient été qui avaient souffert le plus de la violence du conflit armé, sont celles qui ont voté majoritairement pour le oui aux accords de paix.
Donc, en fait, allez-y, continuez, je vous en prie.
Donc en fait on a un pardon qui est beaucoup plus favorable ou volontaire de la part des victimes des FARC que de la part d'autres personnes de la société qui n'ont pas souffert autant du conflit armé.
Anne Boucher, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, en partie. Enfin, je pense qu'il y a effectivement une volonté de pardon, ou en tout cas d'arriver à la paix, particulièrement au sein des communautés qui ont été les premières victimes du conflit. Mais je pense que c'est vraiment à condition que ces points prévus sur la justice traditionnelle soient faits, et à condition d'avoir vraiment les éclaircissements historiques, la reconnaissance des victimes, la condamnation pour les crimes les plus graves des auteurs, et puis la réhabilitation aussi des victimes. Donc il y a cette volonté.
Donc pardon, mais oui. Débat nécessaire quand même.
Oui, et puis passage devant la justice pour voilà les auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et puis effectivement, pour compléter ce que disait Monsieur Massé, c'est vrai que c'est un phénomène qui est peut-être difficile à comprendre depuis la France, où finalement il y a tout un pan de la population, notamment dans les zones urbaines plus éloignées du conflit, qui ne sont pas foncièrement favorable ou en tout cas enthousiaste autour de cet accord de paix. Je pense que là, il convient d'expliquer un petit peu aussi que il a pu y avoir une certaine simplification dans les médias notamment de ce qu'est le conflit armé interne, en mettant vraiment en avant les crimes commis par les FARC et en passant un peu sous silence tous les crimes commis par les paramilitaires et aussi par un certain nombre d'agents des forces de l'État.
Alors il nous reste...
Si vous me permettez juste...
Oui, allez-y, je vous en prie.
Je pense qu'il ne faut pas trop attendre non plus de la justice traditionnelle en Colombie. C'est très important, effectivement, non seulement symboliquement et politiquement et pour les victimes, mais on sait, ou en tout cas, il est probable que la plupart des dirigeants des FARC qui ont été impliqués dans les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité diront une partie de la vérité, pas forcément toute la vérité, et n'auront pas de condamnation très lourde, puisqu'un système est prévu de, justement dans cette justice transitionnelle pour qu'ils ne soient pas condamnés à l'empêche de 8 ans de
peine. 8 ans maximum.
Donc, voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les crimes commis par les FARC et les crimes commis par les groupes paramilitaires, je ne suis pas complètement... Je pense qu'il y a eu, notamment lors des négociations de paix, l'accent a été mis beaucoup justement sur les crimes commis par l'État ou par un certain nombre de groupes plus ou moins associés par l'État, groupes paramilitaires ou groupes héritiers des groupes paramilitaires. Il y a tout un débat en Colombie pour savoir si les bandes criminelles, qui sont bien davantage que des bandes criminelles, s'assimilent exactement à ce qui étaient les groupes paramilitaires. Il y a tout un débat là-dessus. Mais... je pense que les FARC, effectivement, ont réussi, lors des négociations, à déplacer un petit peu le débat sur les crimes qui ont été commis et les crimes commis par l'État ou par un certain nombre d'agents de l'État ont eu autant d'importance que les crimes, voire davantage d'importance.
Alors, Frédéric Bassou, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais il ne nous reste plus qu'une minute. Je voulais quand même, en 30 secondes, vous demander le LN, donc l'autre guérilla qui enclenche des processus de paix, a reconnu un attentat, a revendiqué un attentat il y a quelques jours. Est-ce que cette nature a fragilisé la paix en quelques secondes, vraiment?
Alors, le processus de paix avec les FARC, non, je ne pense pas que ça fragilise. Ça peut le compliquer, mais ça ne va pas vraiment le fragiliser. Maintenant, en ce qui concerne le processus avec le LN, C'est effectivement très compliqué, mais le gouvernement se trouve dans une situation un peu délicate, parce qu'il ne peut pas se lever de la table des négociations, sinon ça, c'est la rupture du processus. Il ne peut pas céder non plus comme ça, après un attentat de l'ELN, en acceptant un cessez-le-feu du jour au lendemain.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Frédéric Massé, directeur du Centre de recherche et projets spéciaux à l'Université Externado de Colombie. Anne Boucher, responsable des programmes Amérique à l'ACAT France et membre du réseau France-Colombie Solidarité. Merci également à Valentin Vaner et à Florence Ponce. On se retrouve demain pour un nouveau débat.